Bon, alors ce matin, c'est fort, non ? Ce matin, mon message commencera par une question. Est-ce que vous voulez changer ? Ou au moins, pensez-vous que vous avez quelques points dans votre vie qui seraient bons de changer ? Alors moi, je crois, enfin moi en tout cas dans mon cas, et je crois que pas être le seul, on a tous une liste de choses qu'on aimerait changer. Voilà. Alors si vous n'avez pas de liste, demandez à votre femme ou à votre mari. Si vous êtes célibataire, demandez à vos amis, vous verrez. Je suis sûr qu'ils seront ravis de vous aider. Je suis sûr qu'ils auront des suggestions à vous faire, hein. Ne vous inquiétez pas. Et vous savez, souvent, vous avez remarqué que quand on décide de changer, il y a de l'opposition. Hein ? Par exemple, on décide de se lever un peu plus bonheur qu'avant pour prier. C'est une vraie décision. Alors on met son réveil, ou son portable. Maintenant, le réveil, c'est fini. Mais le problème, c'est que quand le réveil sonne, nous, on a un pouvoir. C'est d'arrêter le réveil. Et on a un deuxième pouvoir, c'est de rester au lit. Parce que bon, il fait bon, on est bien. On peut prier au lit, pas mal. Mais enfin, en général, non, on veut se rendormir, rester au chaud. Et puis, bien sûr, on va se lever, puis on va être déçu parce qu'on se dit, bah, tiens, voilà, on a raté une occasion. Ou par exemple, on décide de faire un régime pile le jour où il y a des fraises et de la chantilly. Voilà. On ne peut pas attaquer. On le reporte au lendemain. Le lendemain, on est invité. Il y a un mariage. On est obligé d'y aller. Et donc, il faut que je change. On veut tous changer. Et souvent, on se le dit. Hein. On a essayé plein de fois dans notre vie. On y a mis notre cœur. Des fois, vous savez, on est allé à des rassemblements où on est appelé. Vous savez, si vous voulez changer, approchez-vous. Et puis, je pense que des fois, on l'a fait de tout notre cœur. Et puis ça n'a pas marché vraiment. Ou partiellement. Peut-être qu'on ne change pas parce qu'on n'emploie pas les bonnes méthodes. Alors, il y a quelques méthodes de changement que je vais vous proposer. Toutes, elles ont une part de vérité. Toutes. Par exemple, le changement de l'environnement. Les gens agissent d'une certaine façon, car leur environnement les a formatés à agir d'une certaine manière. Il y a une vérité là-dedans. On est tous influencés par ce qu'on a vécu. Donc, nos parents nous ont influencés. Nos frères, nos sœurs, notre ambiance générale nous a fait grandir. Voilà. Mais est-ce qu'on est tous dépendants de cet environnement ? Est-ce qu'on n'est que cet environnement ? Non. Non. Par exemple, si on prend le fils prodigue dans la parole de Dieu, le même père, a priori la même éducation, deux chemins différents. Donc l'environnement joue, mais pas que. Alors, d'autres disent que pour changer, il faut rechercher dans notre passé. Ça, c'est au départ, c'est la psychanalyse de Freud. Hein. C'est lui qui l'a inventé. Hein. L'idée de base, c'est la suivante. Nos comportements sont déterminés par des choses cachées qui nous sont arrivées principalement dans l'enfance. Alors, il faut creuser dans ce passé. Un bon thérapeute peut vous y aider et va nous y aider. Alors, ça va permettre de réfléchir là-dessus, ça va permettre de le verbaliser, ça va permettre de nous aider à changer, mais en partie. En partie. Parce que malheureusement, souvent on retombe dans ses travers. Et là, en plus, une petite voix nous dira « tu ne peux pas changer, tu n'y arriveras jamais ». Ça, c'est extrêmement culpabilisant. D'autres essayent de changer par la découverte de soi, vous savez. C'est à la mode. Hein. L'idée vient que le changement vient à travers la découverte de soi, de son potentiel. Et là, on retombe dans ce que nous a partagé Stéphane dimanche dernier. Hein, iPhone, iPad, le centre du monde. Moi, je suis le centre. Et là, c'est pareil. C'est pas mal, c'est bien d'avoir une bonne opinion de soi, mais on devient Dieu dans cette opinion de soi, et donc on ne compte pas sur lui. Donc c'est sa limite. D'autres essayent de changer en mettant des règles. Nous, on appelle ça, dans les églises, on appelle ça le légalisme. Hein ? On peut comparer, pour l'illustrer, un petit peu à l'armée, de manière un peu caricaturale. Hein ? Hein, comme un soldat qui fait ci, oui, fais ça, oui, fais ton lit, oui, lève-toi à 5 heures, oui, prie, oui. Alors, on n'est pas tombé dans cette forme de christianisme. On est tous des fois tombés dans cette forme de christianisme. Parce que c'est reposant dans un sens. Hein. On te dit ce que tu as à faire. C'est reposant. Moi, j'ai connu des églises comme cela. Alors, on peut faire marcher les gens par le légalisme, mais là, pareil, on en trouvera beaucoup de limites. Parce que dans ce système, on va réduire le christianisme à trois choses. Les choses qu'on peut faire, les choses qu'on doit faire, et des choses qu'on ne peut pas faire. Ça manque d'air quand même. Hein. On a besoin d'avoir un peu plus de... Alors, le problème, c'est que la loi est bonne, parce qu'elle vient exposer le péché, mais comme nous rappelle la parole de Dieu, elle n'a aucune puissance pour changer quoi que ce soit. Donc ça, c'est aussi important. Et même moi, j'ai remarqué que plus on est légaliste, et moins on change. En fait, on cache. On ne change pas, on cache. Hein ? On fait semblant. Et puis au bout de quelques années, puis des fois on rencontre des chrétiens, ben, ils ne savent plus où ils sont, ils ne savent plus qui ils sont, parce qu'ils ont trop fait semblant. Ils n'ont pas fait les choses par eux-mêmes. Alors moi, je préfère des gens qui disent, ben, voilà, je ne suis pas parfait, je suis comme ça, mais je sais que Dieu m'aime. Je ne suis pas parfait, mais je sais que je peux lui demander pardon. Voilà. Parce que vous pouvez essayer le légalisme, vous ne changerez pas. Une autre façon, là, il y en a plein d'autres, hein, mais je vous fais un peu... C'est que les gens veulent changer en s'isolant. Là, l'idée, c'est quoi ? C'est le monde est mauvais, je m'isole. Ça, on le vit souvent à la conversion. Enfin, moi, je me rappelle, quand je me suis converti, j'étais jeune, et d'un coup, j'ai arrêté de fréquenter mes amis. Parce que mes amis, ils étaient dans le monde, c'était le péché, donc je n'avais rien à faire avec le péché, c'était point terminé. Ça ne m'a pas fait changer. Hein. Mais surtout, ça m'a empêché de témoigner à ses amis, en fin de compte. J'ai pensé que c'était bien, mais au final, ce n'était pas terrible. Mais bon, c'est comme ça. Ça ne marche pas. La version... D'autres essayent de changer par la connaissance. Hein ? La version non chrétienne, si on éduque les gens, ils vont changer. C'est pas fou, dans un sens. C'est pas faux. Mais c'est pas vrai. La version chrétienne de cela, c'est quoi ? Les gens changent par l'étude biblique. Alors bien sûr, moi j'aime, je crois en l'étude biblique, je trouve ça extrêmement important, mais malheureusement, là non plus, ça ne suffit pas pour changer. Malheureusement. Parce que si ça suffisait, on serait plus nombreux à l'étude biblique. C'est certain. Parce que ça se saurait. Ça se saurait. Mais, malgré tout, ça participe à notre changement. Donc voilà. Donc je vous encourage à aller à l'étude biblique. Parce que le changement, ça prend plus que la connaissance encore. C'est plus que cela. Alors, comment on fait ? Voilà. Je vous laisse y réfléchir. Oula ! Attends. Donc, comme je l'ai dit au début, je pense qu'au moins une fois dans notre vie, on a souhaité changer. On s'est posé la question de la manière la plus sincère possible. Quand on est arrivé, vous savez, comme on dit, au bout de soi, vous savez qu'on est fatigué de soi-même. Hein. Et là, heureusement, il y a un homme qui s'appelle l'apôtre Paul. Quand on est chrétien, l'apôtre Paul, c'est un peu une idole, quoi. C'est le gars, c'est incroyable ce qu'il a écrit. C'est le gars parfait. Et bien même l'apôtre Paul, hein, il voyait lui-même que quelque chose n'allait pas. Alors on va voir Romains 7 à partir du verset 14. Moi je vais le dire, c'est pas grave. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Vous voyez, comme nous, il a la volonté. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Paul nous dit quoi, là ? Il nous dit, si on paraphrase, « Je suis incapable d'arrêter les choses que je ne veux pas faire. J'ai beau essayer, je n'y arrive pas. » Alors là aussi, je pense que chacun de nous, c'est arrivé au moins une fois dans notre vie, hein, je ne prends pas grand risque, hein, on s'est senti comme cela, hein, « Je veux arrêter. » Je vais te dire des exemples, mais chacun y mettra les siens. Hein. Je ne sais pas moi. Je veux arrêter de mentir. Ben, je n'en suis pas capable. Je veux arrêter de boire. Je n'en suis pas capable. Je veux arrêter de me droguer. Je n'en suis pas capable. Je veux arrêter. Hein. Je ne suis pas capable. Hein. Il y a des choses qu'on veut arrêter de faire, mais on est incapable de ne plus les faire. Et Paul dit aussi, il y a des choses que je veux faire, de bonnes choses, mais je ne suis pas capable de les faire, en plus. Au verset 15, « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair, j'ai la volonté, mais pas le pouvoir de faire le bien. » Alors, là aussi, hein, on veut prier plus, mais on ne le fait pas. On veut lire la parole de Dieu plus, on ne le fait pas. On veut arrêter de juger les gens, on ne le fait pas. On veut arrêter de s'asseoir au banc des moqueurs, on ne le fait pas. On veut aimer nos frères, nos sœurs, plus profondément, mais on n'y arrive pas toujours, etc., etc. Regardez, tout est écrit. Versets 21 à 23, « Je trouve donc en moi cette loi, toujours en Romains, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. » Vous voyez, ça c'est pour nous rassurer. Parce qu'on en a envie, et puis on sait qu'on peut prendre plaisir selon notre être renouvelé. Mais je vois dans mes membres, dans qui je suis, dans ma manière d'être, une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. C'est fantastique. C'est la réflexion, je veux dire, c'est exactement ce qu'on vit. On pourrait lire que ça et s'arrêter là. Paul, il dit, je ne comprends pas, il y a deux personnes qui vivent en moi. Hein ? Il y en a une qui veut suivre Dieu et il y en a une qui veut juste s'éloigner de Dieu. Hein ? Ça vous est jamais arrivé, là aussi, d'avoir, vous savez, ce qu'on appelle une conversation avec le Seigneur en lui promettant que cette fois, c'est fini. C'est la dernière fois. C'est la dernière. La dernière des dernières. C'est fini dans ma vie, ce problème. Et puis là, on se rappelle que on l'a déjà eu, cette conversation. Et on avait dit exactement pareil. Mais là, on va dire, non, mais là, maintenant, c'est vraiment, vraiment vrai. Avant, c'était vrai, vrai, mais là, c'est vraiment vrai. Hein ? Et combien de fois, parfois le même jour, pas à peine d'attendre 10 ans, hein ? Bingo, on refait la même chose. Qu'on avait promis au Seigneur que c'était la dernière. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Je vous dis ça parce que c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Voilà. Donc ce que vous constatez, je trouve que c'est un encouragement pour réaliser que Dieu le sait. Voilà. Il sait comment on est fait. Et alors l'apôtre Paul va lancer un cri au verset 24. Qui, misérable que je suis, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps, du corps de cette mort ? C'est fantastique. Le constat de l'apôtre Paul, c'est le nôtre quand on veut essayer de changer et qu'on n'y arrive pas. Misérable que je suis. Il est très profond, parce que le mot délivré, dans le grec, là, il signifie arraché au danger. C'est un mot qu'on utilisait c'est un langage de soldat, hein, dans une bataille. Il y avait un soldat blessé sur le terrain, on devait aller le secourir. C'est exactement ce que dit Paul. Paul est en train de dire, moi je suis comme un soldat blessé, je souffre, comme une personne qui est désespérée, on pourrait faire ce rapport-là, et qui se dit, mais est-ce que quelqu'un va venir? Est-ce que quelqu'un va venir m'aider? Est-ce que quelqu'un va venir me délivrer? Et ensuite, l'apôtre Paul, il dit un autre truc, il dit de ce corps de mort. Et c'est très intéressant parce que l'apôtre Paul, vous savez, c'est Saul de Tarse. Donc, il vient d'une ville qui est en Cilicie, en Turquie, qui s'appelle Tarse. Et à Tarse, on avait une petite spécialité. C'est que quand quelqu'un tuait quelqu'un, on prenait, si on arrêtait le criminel, le meurtrier, on le prenait, on l'attachait à un pilon, voilà, un poteau, ce sera plus simple. Et vous savez ce qu'on faisait? On prenait la personne qu'il avait tuée et on lui mettait sur le corps. Ouais. On lui mettait sur le corps et cette personne, tranquillement, en se décomposant, en 2 jours, le criminel était mort, quoi. C'est horrible. Donc c'est fort, ça, qui me délivrera de ce corps de mort. Vous voyez, ce corps qui est en train de me tuer. C'est exactement ce qu'il nous dit là. Voilà. Voilà. C'est comme s'il disait, je suis un criminel, puis il y a un cadavre sur moi qui est en train de se décomposer. Et je suis en train de mourir. Je suis misérable. Je vous lance un SOS. Voilà. C'est ce qu'on a tous vécu. Hein? Alors si le texte s'arrête là, franchement, misérable que je suis, qui me délivrera? Ça sert à quoi d'être chrétien? Franchement, ça sert à quoi de lire sa Bible? Ça sert à quoi de venir à l'église? Mais heureusement, grâce à Dieu, il y a le verset 25 qui nous dit « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. » Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà, heureusement. La clé pour changer, donc, la clé pour changer, ce n'est pas une méthode. La clé pour changer, c'est une personne. Amen, exactement, amen. Hein? Alors, j'ai écrit, vous savez, dans le grec, il n'y a pas de chapitre, comme Norbert nous l'a dit. Mais je ne sais pas s'il nous l'a dit, en fait. Ça m'a fait penser à ça. Mais en tout cas, un jour, j'ai dû l'entendre de sa bouche. Donc, vous savez, il n'y a pas de chapitre, il n'y a pas de verset, il n'y a rien. C'est génial. Enfin, c'est génial. À lire, ça ne doit pas être pratique. Mais, regardez, si vous le lisez comme ça, là, ça devient génial. Au verset 24, il y a « misérable que je suis ». Au verset 25, il y a « grâce soit rendue à Dieu ». Et au verset, chapitre 8 du verset 1, « il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Aucune condamnation. Vous étiez misérable? Ouf! Vous étiez cuit? Ouf! Grâce à Dieu, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est formidable, non? Amen! Alors, ici, certains vont me dire, mais je le crois. Je le comprends, mais pourquoi je ne change pas? Pourquoi je ne change pas? Alors, je n'ai pas la prétention de vous dire, voilà pourquoi vous ne changez pas, mais je crois que je peux vous donner une piste. Pour changer, nous devons avoir une communion avec Jésus-Christ. Et regardez le chapitre 8, verset 2. « En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » La loi de vie en Jésus-Christ. Quand on lit le chapitre 7 de Romains, vous le lirez, vous les compterez, on va compter à peu près 30 fois, l'apôtre Paul va dire « moi, je, moi, 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 moi ». Voilà. Et comment se termine le chapitre ? « Misérable que je suis ». Je trouve que c'est hyper parlant. Quand on est intéressé que par soi, je ne fais pas cette injure à l'apôtre Paul, hein, mais vous voyez ce que je veux dire. Lui, il décompose le « moi » pour nous expliquer quelque chose. Hein. Mais souvent, quand on est centré sur soi, quand on parle de soi, on finit par « misérable que je suis ». Au chapitre 8, 20 fois, l'emphase est mise sur le Saint-Esprit, sur Jésus-Christ. 20 fois. Hein? Donc, voyez-vous, cela dit quoi? Cela dit, soit on met l'emphase sur soi, et la conclusion, c'est misérable, soit on regarde au Seigneur Jésus, et la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ nous affranchit. Hein? On ne pourra pas changer si nous n'avons pas de communion avec Dieu. En fait, c'est ça. On ne pourra pas changer. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est dit, c'est écrit. Hein ? Et marcher par l'esprit, c'est quoi, là aussi ? Parce que des fois, franchement, on a tellement compliqué cela que beaucoup ne savent même pas ce que ça veut dire, ce que ça signifie concrètement, marcher par l'esprit. Marcher par l'esprit, si on le résume, c'est hyper simple. Marcher par l'esprit, c'est rester connecté à Jésus-Christ. Ça, c'est marcher par l'esprit. Rester connecté. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Parce qu'il y a une vie en Christ à travers son Saint-Esprit. On doit rester connecté avec le Seigneur. Hein. Rappelez-vous Jésus, ce qu'il a dit dans l'Évangile. Il a dit quoi ? Il a dit, je suis la vigne, vous êtes les sarments. C'est concret. Hein. Si quelqu'un demeure en moi, par l'esprit du Seigneur que nous avons reçu, la sève de vie va couler en chacun. La sève de vie va couler en chacun de cette vigne. Et puis nous porterons beaucoup de fruits. Alors voilà, le Seigneur nous dit, voilà ma méthode. Pour changer, ma méthode, moi, je vous le dis, restez connectés à moi. Hein ? Et je suis sûr que ce matin, certains doivent se dire, mais c'est tout ? C'est tout pour changer ? C'est tout ? On ne change pas parce qu'on met toute notre volonté sur le changement. Vous savez, on ne peut pas changer comme cela. On doit mettre toute notre volonté sur notre relation avec Jésus-Christ. Toute notre volonté sur cette connexion avec le Seigneur. Et on va changer. On va changer, ce sera un fruit. Hein ? Regardez, imaginez. Quand vous vous levez le matin, on remet sa journée au Seigneur. Mais si on le fait vraiment, on remet sa journée, on monte dans sa voiture, on sera à son travail, on prie, on loue, on pense à quelque chose, mais on reste connecté avec le Seigneur. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver ? Vous allez changer. C'est aussi bête que ça. Hein ? Seigneur, je suis content de commencer cette journée, tu vis avec lui. Tu prends ton déjeuner avec lui, vous changerez. Imaginez, vous regardez la télé, vous êtes connecté avec Jésus. Hein ? Ben, vous croyez que vous allez regarder n'importe quoi ? Ben non. Mais ce qui est génial, c'est que vous n'allez pas regarder n'importe quoi par culpabilité. Vous allez regarder pas n'importe quoi parce que vous êtes connecté avec le Seigneur, parce que vous avez passé un temps avec lui. Et alors moi, je fais toujours, ça fait... Mais il est là, d'accord ? Ben vous regardez pas n'importe quoi, parce que peut-être le Saint-Esprit vous dit, mais t'es sûr que c'est bien ce que tu regardes ? Non, je vais changer. Parce qu'on reste connecté. C'est vivant, notre foi est vivante. On reste connecté et on fait pas n'importe quoi. Mais encore une fois, c'est important. On le fait pas par culpabilité. On le fait parce qu'à un moment donné, on n'en a pas envie. Quand on est connecté avec Jésus, on change. On n'a pas à se torturer pour changer. On change. Voilà. C'est un peu comme... Donc, mettons cette énergie à rester connecté. Et vous savez comment vous saurez que vous avez changé ? Enfin, vous avez la première méthode, c'est dire aux autres, « T'as vu, j'ai changé. » Bon, ça, c'est moyen. C'est que vous n'avez absolument pas changé, entre parenthèses. Non. C'est les autres qui vous le diront. Tout simplement. C'est les autres. Hein. Qu'est-ce que tu as fait, toi ? Tu as changé. Tu n'es plus pareil. Tu t'énerves moins. Tu es plus calme. Tu es plus à l'écoute. Waouh ! Tu es généreux. Plein de tous nos défauts. Les autres le verront. Et ils diront, pétard, c'est plus le même lui. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie ? Il se passe qu'il est connecté avec le Seigneur Jésus. Et il croit que le Seigneur Jésus peut agir dans sa vie de tous les jours. Et c'est comme quelque chose qui montera crescendo, crescendo. Voilà. Donc La méthode pour changer, il n'y en a qu'une. C'est rester connecté au Seigneur Jésus. Il n'y en a pas d'autre. La méthode, il n'y en a pas dans l'absolu. C'est une personne. Voilà. Ce n'est pas une méthode. Et je crois que tout cela peut changer notre vie totalement. Totalement. Hein ? Soyons renouvelés. Voilà. Alors laissons l'Esprit du Seigneur couler en nous. Nous changerons. Et quand chacun change, c'est l'Église, c'est le corps qui change. L'ambiance, l'atmosphère n'est plus la même. Les envies, les projets, tout change. Tout change. Parce qu'on s'attend au Seigneur. C'est ça aussi, rester connecté. S'attendre au Seigneur. Voilà, donc, connectons-nous, frères et sœurs. Restons bien accrochés à lui parce que c'est la vie qui coule de sa sève vers nous. Voilà. Soyez bénis. Amen. Et peut-être on va prier. Amen. Je vais vous inviter à vous lever. On va juste... Seigneur Jésus, merci de bénir chaque personne ici ce matin. Merci de bénir notre manière de changer. Merci de nous faire réaliser que tu es le Seigneur de la vie et que si on des fois on cherche à droite, à gauche, et tu es là, Seigneur Jésus. Et je te demande de toucher par ton Saint-Esprit notre cœur afin qu'au plus profond on réalise cela, Seigneur Jésus. Et merci parce que c'est une joie d'être ensemble, Seigneur. Merci parce que tu es le roi des rois. Amen. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis.
Amen. Merci beaucoup. Nous allons avoir un temps. Nous allons prendre la Sainte-Cène ensemble. Je voudrais appeler Alexis à venir nous partager ce temps.
Bonjour à tous et à toutes. Et en préparant la Sainte-Cène, donc j'ai relu le récit de la scène dans les trois évangiles et j'ai remarqué que au début, quand Jésus prend le pain et la coupe, il fait une prière de reconnaissance. Alors certainement, il l'a fait parce que c'est la fête de la Pâque juive et qui veut prier pour cette fête-là. Et c'est la tradition, mais on sait qu'après, il va changer cette tradition. Et c'est ça, c'est quelque chose qui est super. À travers ça, il rappelle aussi la bienveillance de Dieu dans nos vies, par les remerciements et par cet esprit de reconnaissance qu'il a. Et c'est une attitude qu'on retrouve dans le verset de 1 Corinthiens, au chapitre 11, au verset 26. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et ce passage, il nous montre qu'à chaque fois qu'on prend la coupe, on se présente de manière humble devant lui, devant Dieu. On le remercie pour tout ce qu'il fait dans nos vies, quand ça va bien, mais aussi quand ça ne va pas bien. Et c'est ce que je pense qu'on peut refaire ce matin. Depuis quelques temps, on prend la Sainte-Cène tous les mois, à peu près, pas tous les dimanches. Mais je pense que c'est un esprit de gratitude qu'on peut perpétuer à travers cette communion avec Dieu. Et ça rejoint un peu ce que dit Fred, d'avoir cette reconnaissance de cet esprit de Dieu, de Jésus, qui est en nous et qui nous transforme. Et je vais prier pour cette Sainte-Cène. Seigneur, merci, parce qu'on peut être reconnaissant de l'esprit que tu as mis en nous et qui change nos vies. Merci pour ce que tu fais en bien, Seigneur, et merci parce que tu nous transformes, Seigneur. Vraiment que ce temps soit un temps de communion et voilà, que tu puisses nous bénir, Seigneur, tous ensemble, en tant qu'assemblée et individuellement. Amen. Amen. Et je vous invite à prendre le pain et le vin.
Qui revient. chante avec la création. Louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi. Et je veux t'adorer.